10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Scène de chaos et de guérilla urbaine, hier en plein Paris pour l'acte 3 des Gilets jaunes. Arc de triomphe pris d'assaut, souillé de slogans, voitures incendiées, affrontements avec les forces de l'ordre. Le mouvement des Gilets jaunes a-t-il été débordé par les casseurs, les professionnels du désordre, pour reprendre les mots du ministre de l'Intérieur, ou a-t-il changé de nature? Emmanuel Macron est intervenu hier pour dire que ce chaos n'avait rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime, mais qu'il n'accepterait jamais la violence. Alors maintenant, que faire? État d'urgence ou pas? Comment surtout renouer le dialogue? Avec qui? Pour parler de quoi? Les syndicats, hors-jeu dans l'émergence de ce mouvement de colère, peuvent-ils jouer un rôle? Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Nous allons évidemment parler avec vous de ce qui s'est passé hier et plus largement de ce mouvement de colère qui dure maintenant depuis plusieurs semaines en France. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Vous avez vu, comme nous tous, ces images particulièrement fortes d'un Paris en plein chaos, des scènes d'émeutes, des blessés par dizaines, des scènes de pillage. Et puis aussi en province, une préfecture, celle de Haute-Loire, en feu. Est-ce que la situation vous inquiète?
Oui, bien sûr, mais je le dis depuis plusieurs semaines que la situation m'inquiète, même
mais
depuis plusieurs mois.
Là, après les événements
ce qu'on a
d'hier.
Vu hier, c'est particulièrement choquant. C'est particulièrement choquant par l'attaque dont ont été victimes les policiers. Les bâtiments, c'est extrêmement important, j'y reviendrai, mais les policiers, c'est-à-dire qu'une violence extrême à leur égard. Je rappelle que ce sont des agents de service public qui sont là pour notre sécurité. Donc je suis d'abord choqué de ça et choqué évidemment de l'extrême violence contre les bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. Avoir une préfecture en feu ou voir l'Arc de Triomphe dégradé, c'est choquant. Donc effectivement, il y a un degré de violence qui est inacceptable, condamnable, et il faut le condamner, et je le condamne.
L'Arc de Triomphe souillé, pris d'assaut par des manifestants, c'est un symbole fort qui a été attaqué hier. Ça vous heurte particulièrement?
Oui, mais une préfecture de région aussi. Oui, l'Arc de Triomphe, évidemment. Mais une préfecture de région aussi, qui est la maison de l'État en région. Et l'attaque contre des policiers qui sont là pour le maintien de l'ordre. Et ça aussi, ça me choque. C'est-à-dire que c'est pas plus choquant parce que ça se passe à Paris, à l'Arc de Triomphe, même si encore une fois,
non,
c'est
désastreux. Non, mais à l'Arc de Triomphe,
désastreux.
Il y a 15 jours, il y avait des dirigeants du monde entier qui étaient là pour
oui,
célébrer la
sûr,
paix.
Oui, et dans la préfecture de Haute-Loire, tous les jours, il y a des citoyens qui viennent pour pour réaliser des papiers administratifs, pour avoir face à eux le service public. Et donc, tout cela est choquant. Il n'y a pas de degré. Tout cela est profondément choquant, condamnable, et appelle évidemment à une condamnation sans concession de tous ceux qui, aujourd'hui, ne veulent pas souffler sur les braises, mais construire des solutions.
Nicolas Barré.
Le gouvernement, finalement, contrôle-t-il la situation? Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, disait hier sur TF1 que des casseurs étaient venus pour piller, pour casser, pour blesser et même tuer. Et, d'où vient cette violence, à votre avis?
Cette violence, il faut distinguer, parce que là, évidemment, maintenant, on va rentrer dans la précision. Il faut distinguer la colère légitime qui s'exprime sur des difficultés de fin de mois, de pouvoir d'achat, de reconnaissance, parfois de problèmes très concrets de logement, etc. Donc elle est respectable, légitime, et elle se comprend. Ça fait longtemps qu'on alerte sur ces questions-là. Puis de l'autre côté, des groupes qui se saisissent de ces mal-être, ça aurait pu être un autre sujet, ça aurait pu être d'autres à un autre moment pour déstabiliser notre démocratie. Je crois qu'il faut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des groupes d'ultra-gauche, d'ultra-droite qui à un moment donné peuvent se servir de n'importe quelle condition, de n'importe quelle situation pour essayer de déstabiliser et déstabiliser au maximum notre démocratie, parce que leur conception, ce n'est pas la nôtre, de modèle de la République. Et donc, il faut condamner ça, il faut être clair là-dessus. Je crois qu'il y a des groupes d'extrême droite qui étaient très présents hier. Ben voilà, il faut l'affirmer, et il faut dire que c'est inacceptable et les combattre.
Mais sauf qu'on a vu aussi des gilets jaunes assister à ces scènes de violence, de pillage. Certains sont désolidarisés, d'autres... pas. Est-ce qu'il n'y a pas, de votre part, une crainte d'une radicalisation?
Si, mais elle est déjà à l'œuvre. elle est déjà à l'œuvre pour une part non négligeable de personnes qui suivront ces orientations-là de groupes radicaux.
Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément deux mouvements complètement séparés.
Il y a ceux qui instrumentalisent une colère qui, encore une fois, est légitime, qui le font par objectif politique, qui aussi surfent sur les responsabilités assez générales du monde politique, expliquant que finalement, ce n'est pas si grave, la violence, etc. Enfin, on entend quand même de la part de certains responsables politiques des choses hallucinantes. Et puis, de l'autre côté, il y a évidemment des personnes qui sont en colère et qui tombent là-dedans. Bah, ceux-là, ils sont en faute. Je le dis, ceux qui au début voulaient manifester pacifiquement et se sont mêlés aux dégradations, à la violence contre les policiers.
Mais quelle voie pour leur dire, ne tombez pas dans cette dérive, ne tombez pas dans ce piège.
Quelle voie ? C'est la voie de tous ceux qui portent une vision plus apaisée de notre démocratie et qui ne vont pas se concentrer sur les petits calculs politiques pour essayer de regarder où serait le passage pour eux pour s'en sortir le mieux. Je crois que c'est toute la démocratie qui est capable d'être emportée par ce qui se passe actuellement. Donc la voie, elle est une voie du dialogue, le dialogue. C'est ce que j'ai dit déjà il y a 15 jours, c'est ce que je répète aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre voie que d'engager le dialogue sur ce qui provoque ce malaise. Et on parle de pouvoir d'achat, on parle de logement. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est la question du pouvoir de vivre qui est en question aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire des citoyens. Et on a alerté depuis toujours. J'ai sous les yeux la lettre ouverte que j'ai faite au président de la République une semaine après son élection, en disant partager le pouvoir et donner de l'air à notre société, où j'alertais sur les fractures territoriales, sur les inégalités, sur le sentiment de délaissement parce que les services publics avaient fui un certain nombre de territoires. Et là, eh bien, il faut reconstruire du dialogue autour de ces capacités du pouvoir de vivre, où il y a le pouvoir d'achat, le logement, la question des services publics.
On va revenir là-dessus, mais avant le dialogue, est-ce qu'il n'y a pas d'abord une réponse de fermeté à avoir ? Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, n'a pas exclu de recourir à l'état d'urgence pour essayer de mettre fin à cette situation de chaos. Benjamin Griveaux, sur Europe 1 ce matin, a dit que toutes les hypothèses étaient sur la table. Est-ce que pour vous, ça pourrait être une solution que de décréter cet état d'urgence ?
Non. Non, je suis clair. D'abord, ce n'est pas une solution parce que la première réponse à apporter, ce n'est pas une réponse sécuritaire. C'est une réponse de contenu par rapport aux problèmes sociaux,
malgré les exactions
auxquelles on a pu assister hier. Sur les exactions, il faut regarder comment on se protège. Mais je ne vois pas en quoi l'état d'urgence réglerait le problème.
Hier, pour interdire des manifestations, par exemple. C'est ça, interdire plus facilement.
Oui, mais ça provoque quoi derrière ? La manifestation, elle n'était pas autorisée spécialement hier. Elle n'était pas déclarée. Donc ça veut dire que ces groupes-là, ils se joindront à d'autres opportunités pour essayer de déstabiliser. Donc moi, je ne crois pas à cette réponse-là. Je crois d'abord va falloir regarder comment on protège les forces de sécurité. Parce que c'est vrai qu'ils ont été amenés à des agressions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Mais je ne crois pas du tout à l'état d'urgence. Vous savez, il faut faire attention avec les mots. Hier, on a parlé d'insurrection. Il y avait des scènes insupportables de violence, je le répète, que je condamne. Mais il faut faire attention parce que plus on va monter crescendo sur les mots, c'était pas une insurrection, c'était de la scène de violence, de dingues ultra-violents qui ont essayé de déstabiliser et de casser à tout va, à qui se sont mêlés d'autres, bon d'accord. Mais c'était pas une insurrection à proprement parler. Donc il faut faire attention parce qu'à chaque fois qu'on monte, on va essayer d'avoir une réponse sécuritaire et on va oublier la réponse sociale.
Ce terme d'insurrection, il a notamment été utilisé par Jean-Luc Mélenchon. L'opposition de Marine Le Pen à Nicolas Dupont-Aignan accuse le gouvernement d'encourager justement ces scènes de chaos pour décrédibiliser ce mouvement. Et d'un autre côté, il y a aussi Laurent Wauquiez, des Républicains, qui dit, lui, c'est le manque d'écoute du gouvernement et l'absence de main tendue qui a nourri cette colère.
Non, la violence...
Mais qui est le responsable, du coup ?
Non, mais j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. La question, c'est quelle solution on trouve ? Le responsable, c'est, à mon avis, beaucoup de ceux qui se sont exprimés ces derniers jours, qui expliquent qu'il n'y a qu'à Faucon. La responsabilité du gouvernement, elle est engagée. Je ne parle pas des violences, sur les réponses à apporter. Sur les violences, la responsabilité, elle est de ceux qui ont commis ces violences. Je ne crois pas qu'il y ait eu... J'ai entendu que les forces de sécurité auraient, par leur comportement, favorisé les violences, etc. Arrêtons avec ça, arrêtons.
Ou un dispositif tous ceux qui pas veulent... forcément adéquat.
Oui, mais le dispositif... Moi, je ne suis pas spécialiste des forces de sécurité. Donc, je ne vais pas commencer à discuter s'il fallait barrer telle rue. Ce que je sais, c'est qu'hier, il n'y a pas de mort. Il y a beaucoup de dégradations, mais il n'y a pas de mort. À l'heure qu'il est. Et tant mieux. On peut tous s'en réjouir. Donc, c'est ça dont il est question. Donc, la question, elle est Moi, j'ai entendu un certain nombre d'acteurs politiques que vous citez hier. Hein, je les ai vus s'exprimer. C'est irresponsable. De la part de certains, je le dis, c'est irresponsable. La violence est inacceptable. Et par contre, maintenant, travaillons sur les solutions. Travaillons sur les solutions de ceux qui expriment une colère légitime et qui ont hier manifesté pacifiquement.
Est-ce qu'il y avait des adhérents de la CFDT parmi les gilets jaunes qui manifestaient hier ?
Sans doute, évidemment. Sans doute qu'il y avait des adhérents parmi ceux qui manifestaient pacifiquement, je le souhaite.
Vous leur parlez ?
Mais vous en connaissez,
bien sûr, mais on parle,
ont fait état de leur volonté de participer à ce mouvement qui est né hors de vous ?
Ce mouvement, il est né hors de tout. Mais qui est-ce qui, depuis des années, alerte sur l'absence de politique sociale ? Qui est-ce qui, depuis un an, dit que la verticalité du pouvoir est une impasse ? Qui, depuis un an, fait des propositions sur le pouvoir d'achat d'un certain nombre de catégories de Français ?
Mais
notamment,
qui n'a pas
par
été
exemple,
entendu
dans le cadre de
qui
la stratégie pauvreté.
C'est
oui,
vous
bien sûr. Oui, mais ça, c'est la responsabilité de ceux qui n'écoutent pas. Que des adhérents CFDT y participent, oui. Que la CFDT, depuis des années et des années, des mois et des mois, fait des propositions en termes de pouvoir d'achat, de mobilité et tout, c'est une réalité. Donc, ce que je veux dire, arrêtons d'essayer d'opposer les uns aux autres. Il y a un appel ce matin d'un certain nombre de représentants des Gilets jaunes. Je ne suis pas capable de dire s'ils sont légitimes ou pas, ce n'est pas mon sujet. Mais ok, rentrons dans un Grenelle du pouvoir de vivre. Le gouvernement, il faut qu'il accélère. Il y a les états généraux en région qui veulent organiser, très bien. Mais il faut qu'il accélère, y compris d'un niveau national, une écoute beaucoup plus forte des revendications qui sont posées par les Gilets jaunes, mais aussi par les organisations syndicales, les associations depuis des mois et des mois.
Alors comment accélérer et avec qui ? On en parle dans un instant pour la suite du Grand Rendez-vous dont Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est l'invité.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, l'invité du Grand Rendez-vous. Alors maintenant, comment renoue-t-on le dialogue ? Une question de Nicolas Barré.
Oui, Emmanuel Macron donc, a convoqué cet après-midi une réunion à l'Élysée avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, entre autres. Vous avez été un des premiers à réclamer une concertation pour aboutir à un pacte social et écologique. Mais la question, c'est avec qui faut-il discuter ou peut-on discuter pour sortir de cette crise ?
Il faut d'abord discuter avec ceux qui se réclament représentants des Gilets jaunes. Moi, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus.
Mais on ne sait pas qui c'est.
Ce matin, il y a un appel dans le JDD d'un certain nombre de gens qui se disent représentants des Gilets jaunes et qui disent « voilà les sujets dont on veut discuter ». Discutons.
Dans ce Grenelle du pouvoir de vivre, comme vous dites, vous verriez qui ? Alors, il y aurait les organisations syndicales, il y aurait des gilets jaunes, il y aurait qui ?
Oui, et puis des organisations patronales, des associations de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. En fait, ceux qui ont été réunis mardi à l'Élysée, mais qui ont écouté un discours et qui n'ont pas forcément pu amener leurs propositions. Donc, il y a ça, et en même temps, la même chose doit se faire dans les territoires pour essayer de faire émerger des projets territoriaux, etc. Donc, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue. La proposition qu'a fait la CFDT il y a 15 jours maintenant d'un pacte social de la transition écologique, elle est valable. Elle est toujours valable. Et il faut une méthode. Nous, on a proposé une méthode et je continue de le proposer. Mais il faut aussi des sujets. Parce que si c'est pour discuter, ça ne sert à rien. Donc il faut regarder quelles sont les marges de manœuvre. Je l'ai dit dans la réunion que nous avons eue, les organisations syndicales avec le Premier ministre vendredi, je lui ai dit, il faut des marges de manœuvre sur un certain nombre de sujets. Quels sont les sujets que nous voulons porter ? C'est ça qui est important finalement. Les questions du pouvoir d'achat, qui intègrent la responsabilité des pouvoirs publics, mais qui aussi intègrent la responsabilité des employeurs. Parce que beaucoup de choses se passent aussi dans les négociations salariales dans les entreprises.
Et là, vous pensez qu'il y a des marges de manœuvre ?
Dans certaines entreprises, oui. Dans certaines entreprises, oui, à condition qu'on veuille bien négocier. Mais il y a aussi des sujets de pouvoir d'achat, par exemple, pour les personnes les plus en situation difficile. Moi, ça fait des mois et des mois qu'on réclame une augmentation des minima sociaux, ce qui n'a pas été fait dans la stratégie pauvreté. Il faut des discussions sur la transition écologique juste. Comment on fait en sorte que l'impératif écologique, sur lequel il ne faut pas revenir, je rappelle que samedi prochain, il y a une marche pour le climat, une nouvelle marche pour le climat, à laquelle la CFDT s'associe.
L'occasion de l'ouverture de la COP24 qui a lieu cette semaine.
Il faut que cette transition écologique elle soit juste, on l'a dit depuis le début, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires pour les personnes, les ménages qui font face à cette difficulté.
Ça, c'est l'ordre du jour qui a été posé sur la table.
Oui, et ça, très bien. Il faut des discussions sur l'égalité entre les citoyens et les territoires. Ce que révèle aussi cette crise, c'est une inégalité entre les territoires. Et pas, avec, pas d'une façon comme ça a été tracé par certains entre la campagne et l'agglomération, parce que des difficultés et des pauvretés ou des difficultés à vivre, il y en a aussi dans les agglomérations. Donc, mais il faut des projets de territoire, il faut aussi un service public dans ces territoires. Nous, on réclame un bouclier fiscal. Ça veut dire quoi ? Un bouclier de service public. Excusez-moi, bouclier fiscal, c'est le mot qui vient. Un bouclier de service public, ça veut dire quoi ? C'est qu'il y a un moratoire sur toutes les fermetures de guichets de services publics dans les territoires. Il y a même une réouverture. Moi, je suis frappé dans mon
Donc
tour.
Donc, on réouvre des bureaux de poste, on réouvre...
Mais oui, vous savez, moi, j'étais il y a quelques semaines. Locales. Je vais vous donner un exemple. J'étais il y a 15 jours dans un bureau...
On arrête la fermeture des petites lignes de la SNCF, c'est ce genre de choses que vous voulez ?
Ah oui, je crois qu'il faut rapprocher de nouveau les services publics des citoyens. Parce que je crois que le consentement fiscal, il ne vaut que s'il y a un service qui est rendu, et pas rendu d'un niveau macroéconomique, de façon microéconomique. Vous savez, j'étais il y a quelques semaines, il y a 15 jours, dans un centre de tri, dans les Landes. Et j'ai discuté avec une postière qui me disait qu'elle faisait le courrier, que l'après-midi, elle tenait le bureau de poste d'un village. Elle me disait, les gens viennent parfois... pour évidemment le service public qu'offre la Poste, mais aussi parce que c'était à peu près le dernier lien qui existait.
Oui. Mais comment on finance ?
Comment on finance ? Écoutez, comment on finance aujourd'hui la crise qu'on est en train de vivre ? D'un coup démocratique. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir la seule logique budgétaire. Et puis comment on finance ? C'est le quatrième sujet qu'on va mettre sur la table, c'est la question de la fiscalité. La question de la fiscalité. Parce que moi, je ne voudrais pas que la période qu'on est en train de vivre, ou que tout le monde qualifie de ras-le-bol fiscal, et que moi, je qualifie d'inégalité fiscale. C'est assez différent. Je ne voudrais pas que la période qu'on est en train de vivre, elle se traduise comme conclusion à la fin. Écoutez, il faut baisser les impôts, ce qui voudra dire, évidemment, baisser le niveau de service public.
Pas mal de gilets jaunes.
Oui, mais en même temps, ils réclament aussi plus de services publics.
C'est d'ailleurs tout le paradoxe.
Paradoxe
de ce mouvement.
Puisque c'est
paradoxal. Ils réclament plus de prestations, mais moins d'impôts.
Oui, mais pour une raison simple, c'est parce que tout ça n'a plus sens. Tout ça fait plus sens. Il n'y a plus de cap. On ne sait pas où on veut aller. On présente la transition écologique que sous l'angle fiscalité écologique. Présentons-le comme autre modèle de développement. Présentons le modèle de société dans lequel on veut vivre et où les services publics ont une place à prendre à part entière, avec des fonctionnaires respectés, valorisés et avec qui soient sur l'ensemble du territoire. Je crois que si on ne va pas là-dessus, on va se planter.
Mais pardonnez-moi, Laurent Berger, ça, c'est ce qu'on peut mettre dans la discussion. Sauf que ça, c'était déjà dans la discussion depuis mardi. Et vous l'avez rappelé, vous appelez à cette discussion depuis longtemps. Et ça n'a pas empêché le mouvement d'hier. Et ça n'empêchera peut-être pas le suivant. On a l'impression que, effectivement, les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Les Gilets jaunes étaient invités à Matignon. Il y en a deux qui y sont allés. Il y en a un qui s'est défilé parce que c'était pas filmé. Donc, encore une fois, discute ? On n'est plus là dans le cadre des grands messes ou éventuellement, vous pouvez parler avec les syndicats.
Arrêtez avec les grands messes. Arrêtez avec les grands messes.
Contre les grands messes,
À chaque fois qu'on se parle, on a connu les conférences sociales, les sommets sociaux, etc. Le truc, c'était, oui, ce sont des grands messes. Mais ils ont produit quoi, ces réunions ? Elles ont produit des accords sur un certain nombre de sujets, des orientations qui sont prises, y compris dans le cadre de la transition écologique. Donc, vous savez, le dialogue, c'est plus exigeant que la caricature et l'opposition stérile.
Mais encore
c'est
une
beaucoup
fois,
plus
le
exigeant.
Avec
la
qui
position
c'est ça
nuancée,
aujourd'hui la difficulté.
Eh bien, il y a dans ce pays, des corps intermédiaires, qui sont des organisations syndicales, des organisations patronales, des associations, des élus locaux qui ont souvent été méprisés, des élus territoriaux. Eh bien, il y a toute cette société qui représente, tous ces corps intermédiaires qui représentent l'épaisseur de la société, qui sont ouverts à la discussion, qui veulent bien discuter à condition qu'on mette les sujets sur la table. Et puis, puisqu'il y a un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes, il y a des gens qui s'en disent les représentants, eh bien, que le gouvernement les reçoive, les écoute, et puis que ça participe à la discussion globale. C'est-à-dire que depuis... Hier, il ne sait pas, la trajectoire à emprunter, elle est toujours la même. Plus de dialogue, des vrais sujets sur la table, avec des vraies propositions.
Est-ce qu'il faut un premier geste moratoire ou gel de la hausse des taxes au 1er janvier ? Est-ce qu'on commence par ça ? Un certain nombre de gilets jaunes, on ne sait pas s'ils sont représentatifs ou pas, vous l'avez dit, lance un appel ce matin dans le JDD, disent « on commence par ça pour pouvoir discuter ensuite ».
Moi, je vais vous dire, j'ai pas envie que la transition écologique, le fait que notre planète est en train de brûler, qu'un certain nombre de leaders mondiaux ce contre-foot l'intérêt écologique. Je n'ai pas tellement envie que le signal qui soit donné, c'est qu'on ne s'inscrive pas dans cette transition écologique. Par contre,
donc vous n'êtes pas favorable à l'annulation de la hausse des taxes en janvier
pour une approche écologique. Par contre, qu'on traite la question sociale à travers le fait que cette taxe, elle sert pour moitié des projets de transformation de transition sur la production d'énergie et pour l'autre moitié la compensation pour les ménages les plus modestes de cette taxe et plus modestes ou les classes moyennes, eh bien moi je suis pour. Et ça veut dire que par contre qu'on réfléchisse à la fiscalité, aux choix fiscaux qui ont été faits par ce gouvernement au début qui nous a privés de plusieurs milliards d'euros.
Vous pensez à l'ISF?
Oui, je pense à l'ISF et à l'incapacité de considérer à un transfert de l'impôt, de la fiscalité, ouais, du capital et du patrimoine vers la fiscalité des ménages.
Soyons clairs, faut rétablir l'ISF.
Ça s'appellera l'ISF autrement, une tranche d'impôt supplémentaire sur les très hauts revenus. Ça veut dire que on a assisté depuis un certain temps le transfert de la fiscalité du capital vers la fiscalité des ménages, et les gens en ont assez. En ont assez parce que c'est injuste. Et donc c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que c'est notre capacité à re-réfléchir ce qui est la contribution de chacun au bien public. Pour que ce soit juste et pas que ce soit injuste
donc,
comme c'est ressenti aujourd'hui, et parce que c'est une réalité que c'est injuste.
Revenir sur la taxation du capital et revenir sur la suppression partielle de l'ISF.
Je crois que le plus grand geste qui pourrait être fait, c'est sûrement pas le moratoire, même si je comprends qu'en urgence, certains voudraient s'y réfugier. Je crois que le plus grand geste, c'est au contraire de considérer que les très hauts revenus dans notre pays doivent contribuer davantage. Vous savez, quand on entend la semaine dernière M. Arnault expliquer qu'il comprend les gilets jaunes. Parce que moi, j'ai un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de lui dire bah, fallait pas faire tout ça pour essayer de faire en sorte de moins payer d'impôts.
C'est pas M. Arnault qui a supprimé l'ISF.
Non, mais ce
en
que je veux dire, c'est. Oui, mais c'est pas pour.
Il en a sûrement profité.
Vous êtes une bonne avocate, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, il faut recadrer. La fiscalité, ça veut dire qu'il faut que les plus hauts revenus contribuent davantage. Et la mesure, ce gouvernement, il a pris dès le départ de du quinquennat une mesure qui était une mesure d'aide aux foyers les plus riches par des exonérations fiscales ou une baisse de leur fiscalité. Et bien, c'est l'inverse qu'il fallait faire.
Il y a une autre mesure qui est demandée, c'est le SMIC à 1300 euros. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je crois.
1300 euros net, hein, bien sûr.
Oui, mais je crois que la question du SMIC, c'est d'abord la question du pouvoir d'achat, l'évolution des rémunérations dans les entreprises. Le SMIC, c'est le minimum auquel il ne faut pas rester toute sa vie. C'est 10% de la population.
Et Edouard Philippe a déjà dit non.
Mais attendez, je vais vous répondre. Mais vous voyez, on dit que la situation est complexe et vous voudriez que je réponde par des slogans. Ce n'est pas la CFDT qu'il fallait inviter pour reprendre par des slogans ce matin. La situation, elle exige de la nuance, de l'explication et de la confrontation du fond des idées et pas des slogans.
Mais la revalorisation du SMIC, souvent, c'est un signal aussi pour les...
Bien sûr, donc il faut qu'elle soit... Non pas, il ne faut pas que la revalorisation soit... Enfin, que ce soit désindexé, donc il faut qu'elle poursuive le coût de la vie. Et c'est évidemment ce que...
Mais ça, c'est légal. Ça, c'est ce qui va se faire.
Souhaite, oui, mais il y a quelques velléités l'année dernière... Un peu plus qu'aujourd'hui, mais il y avait quelques velléités de désindexer l'augmentation du SMIC. Ça, c'est hors de question pour la CFDT. Et ensuite, il faut plutôt aller vers une négociation dans les branches. Et c'est là où la responsabilité d'autres acteurs rentre en ligne de mire. C'est-à-dire la responsabilisation des entreprises, des branches, pour une augmentation des minima dans les conventionnels. Et là, c'est vrai qu'on a pour l'instant une politique qui est menée dans les branches qui est... On reste au SMIC, on se fait rattraper par le SMIC, il y a plus en plus de gens au SMIC. Donc je ne crois pas que ce soit une mesure.
Donc là, c'est une responsabilité du patronat et.
Bien sûr, et c'est pour ça que ça se mobilise dans un certain nombre d'entreprises sur les négociations salariales aussi.
On revient sur le rôle des syndicats qu'ils peuvent jouer dans cette résolution, peut-être de cette crise, avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h, 11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, l'invité du Grand Rendez-vous. Alors je commence par un petit rectificatif parce qu'il semblerait que ce ne soit pas Bernard Arnault qui se soit dit solidaire des Gilets jaunes, mais François-Henri Pinault, dont acte. Laurent Berger, vous avez plaidé longuement pour dire ça fait longtemps que la CFDT alerte sur le manque d'écoute, sur... Sauf que ce mouvement qui est né, est-ce qu'il n'est pas révélateur quand même de votre propre impuissance à vous faire entendre. On n'a vu aucun gilet jaune dans la rue dire « la CFDT avec nous ». Et on a vu que ce mouvement était né sur les réseaux sociaux. C'est une révolte Facebook, en quelque sorte, qui laisse tout le monde, vous, le pouvoir exécutif, mais aussi vous, les corps intermédiaires, complètement démunis, non ?
Non. Non, non, ça interroge sur notre capacité de mobilisation. Ça interroge aussi la capacité de se faire entendre par les médias. Je vais vous prendre un exemple. La semaine dernière, l'ensemble des organisations syndicales, avec un appel de tous les secrétaires généraux, avaient appelé contre cette marche, contre les violences faites aux femmes. Beaucoup plus de monde dans la rue à Paris que...
Et on en a beaucoup parlé sur Europe 1 et on recevait ici même Marlène Schiappa le lendemain.
Beaucoup plus de monde dans la rue que, pour le coup, les gilets jaunes, on n'en a pas entendu parler. Je rappelle aussi que...
À ce micro, on en a entendu parler.
On en a peu entendu parler. Et on peut regarder les journaux les uns après les autres.
On en a peu
entendu parler. Et regarder les mobilisations qui peuvent se faire dans un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre de secteurs. La dernière fois, récemment, il y a eu les EHPAD. Eh bien, ça ne fait pas autant de bruit. Je le dis quand même, parce que...
Mais comment vous l'expliquez ?
C'est la responsabilité des médias,
la faute des journalistes ?
Non, moi, je ne suis pas là-dessus. Je ne suis pas de ceux qui disent c'est la faute des journalistes. Je constate juste que... Hier, on parlait d'acte 3. Ça veut dire que quand il y a un acte 3, on espère un acte 4.
Dans toutes les bonnes tragédies, ça continue.
Oui, et je dis qu'il faut arrêter les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi des choses qu'il faut raconter différemment, peut-être. C'est ce que permettent les organisations syndicales tous les jours dans les entreprises et les administrations. C'est ce que permettent des avancées de gens qui se mobilisent toute leur vie ou une partie de leur vie au service d'autres pour faire avancer des causes. Que ce soit dans l'entreprise, dans les fonctions publiques, mais aussi dans les territoires. Ce que je dis, c'est qu'un tout un tas de gens sont engagés aujourd'hui dans des associations et font des choses au service d'autres. Et donc, moi, je ne vais pas vous le cacher, parce qu'on a un moment un peu de vérité. Entendre des personnes qui sont sur les barrages vous expliquer qu'ils n'ont jamais été engagés nulle part, qu'ils ne se sont jamais syndiqués, mais jamais engagés dans quelconque association, etc. Et expliquer que tous ceux qui s'engagent depuis des années sont des tocards, j'en ai assez. Et j'en ai assez parce que ça me fait mal à tous ces militants et militantes que je rencontre de la CFDT, mais je pense aussi à d'autres qui s'engagent au quotidien au service de causes et au service d'autres. Donc oui, ça interroge notre capacité à relayer auprès des interlocuteurs gouvernementaux un certain nombre de mal-être. Mais vous savez ce qui est explosé ? J'ai regardé la liste des revendications des Gilets jaunes. Il y a un paquet de sujets qu'on porte depuis longtemps.
Il y en a d'autres avec lesquels...
Non. Non,
ça
mais
en
voyez,
fait partie.
Voyez, mais bien sûr, parce que c'est très contradictoire. Mais la question de d'une réforme fiscale, on le porte. La question de la rénovation thermique des logements, on le dit depuis longtemps. On a un plan gouvernemental de l'État qui était de 500 000 rénovations de logements par an. Il y en a 80 000 qui ont été effectuées cette année. Donc, on a un problème. Donc, ça veut dire que moi, je crois que ce gouvernement, il se prend en boomerang ce qu'il a pratiqué depuis 18 mois. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, ce qui est déjà insupportable en termes de mots, mais je vais vous expliquer ce qu'est la réforme et ce qu'il faut faire. Et tous ceux qui sont des ralentisseurs, on va passer outre. Et à force de faire ça, ils se retrouvent en direct avec le peuple. Ça s'appelle prendre le mouvement dans la figure.
Damien Fleurot.
En mai dernier, dans un entretien aux Échos, vous disiez avec Emmanuel Macron, soit on est d'accord sur tout, soit on n'a pas voix au chapitre. Cela va faire monter les radicalités et la violence dans la société. Le chef de l'État va se retrouver seul face à son bilan. C'est finalement cette situation que l'on vit aujourd'hui.
Oui, c'est cette situation. Et je vais vous dire, je ne suis pas très satisfait d'avoir eu raison à ce moment-là et d'avoir eu raison en mai 2017.
Vous l'avez redit au chef de l'État ?
Oui, bien sûr, je le dis à chaque fois que je le peux. Je redis.
Et que vous répond-il ?
Mais d'abord, je ne l'ai pas eu depuis le début de cette crise, au téléphone.
Il n'a pas cherché et lui non plus n'a pas cherché à où.
Non, mais ça se passe pas comme ça. Moi, je veux dire, tout le monde connaît mon numéro de téléphone, en tout cas lui et d'autres. Voilà. Donc, on a discuté avec le Premier ministre vendredi, avec toutes les organisations syndicales. Mais vous avez raison de citer cette interview. On l'avait dit parce qu'on le ressentait, parce qu'on a alerté sur le mal-être social. On a alerté sur la fracture territoriale, on a alerté sur les problèmes de pouvoir d'achat, sur les questions de transport, sur les questions de mobilité. On le fait. La CFDT, tout le monde le sait, produit un certain nombre de propositions tout le temps. Là, on lui a remis 30 propositions. 30 propositions sur les 4 sujets que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc la question maintenant, c'est comment il y a une méthode de co-construction, pas qu'avec la CFDT, avec tous les acteurs de la société. Parce que moi, je ne crois pas la capacité d'un gouvernement de gouverner contre les collectivités territoriales, contre les organisations syndicales, contre les associations. Contre... Ça ne marche pas.
Mardi dernier,
eh ben, oui. C'est en tout cas ce qui s'est construit depuis le début. C'est-à-dire qu'il s'est quand même construit depuis le début une méthode de discussion qui était en tout cas un peu en considérant que les organisations syndicales, entre autres, étaient des ralentisseurs.
Mardi dernier, il a appelé à cette vaste concertation. Est-ce que là, vous avez l'impression d'avoir été entendu? Est-ce que vous croyez à cette méthode qui changerait de la part d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez que c'est une conversion loyale et sincère à la concertation et à la co-construction, comme vous dites?
D'abord, ces discussions dans les territoires, elles sont absolument nécessaires. Donc, il faut s'y inscrire. Mais il faut trouver le process qui permette de le faire au plus près d'où sont les citoyens. Et pas dans des institutions...
Dans tous les départements, au minimum,
voire infradépartemental, dans les territoires, dans les bassins d'emploi, pour discuter. C'est un peu pour recueillir le ressenti, mais aussi les propositions des citoyens.
Le président a donné 3 mois.
Voilà.
Ça vous semble une bonne façon de procéder?
Oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est... Mais ça doit se doubler d'une démarche nationale. Et encore plus depuis hier. Voilà pourquoi j'appelle au Grenelle du pouvoir de vivre, ou on appellera ça comme on veut. Mais je crois qu'il faut que les acteurs ensemble se saisissent d'un certain nombre de problèmes et fassent émerger des solutions. Certains diront que c'est des grands mecs, etc. Mais en même temps, c'est le seul moyen de faire se confronter des intérêts et des contradictoires. Est-ce que c'est loyal? Ça, c'est la suite qui nous le dira. Mais je crois qu'on est forcément à un moment charnière du quinquennat. La première partie, elle n'était clairement pas ouverte à la société civile, au corps intermédiaire. La deuxième, il faut qu'elle le soit, parce que sinon, je ne donne pas cher de notre capacité à faire vivre une démocratie apaisée. Et moi, finalement, vous savez, je poursuis aussi cet intérêt général. Il n'y a pas que le gouvernement qui poursuit l'intérêt général. On peut porter les intérêts, moi je porte les intérêts des travailleurs, mais on peut aussi porter de l'intérêt général. Et les organisations, quelles qu'elles soient, elles ont leur part de contribution à l'intérêt général. Si ce gouvernement, si ce président de la République ne comprend pas ça, il va dans le mur. Je le dis, je le réaffirme, il va dans le mur.
Vous parlez de démocratie apaisée. Sur cette antenne, le philosophe Marcel Gauchet disait récemment qu'à la fracture sociale s'est ajoutée une fracture morale, comme si au fond le pouvoir ne parlait pas le même langage que la société. C'est aussi ça la racine profonde de ce mouvement, vous pensez ?
Oui, il y a des expressions à répétition qui ont été formulées par
du président de la République.
Oui, et d'autres.
Le pognon dingue, par exemple.
Oui, ou d'autres parfois qui marquent une profonde méconnaissance de ce qu'est le vécu, le ressenti de la population et des travailleurs. Et donc, je crois qu'il y a une forme de surplombance qui a régné. Et donc moi je ne crois pas qu'il faille un président qui se mêle de tous les débats de la société, ce n'est pas le sujet, mais je pense qu'il faut de la compréhension, de l'empathie et de la compréhension des problèmes sociaux qui sont posés sur la table. Et ça ne peut pas être le rappel à la responsabilité individuelle, et je crois que c'est un des éléments de désaccord profond que j'ai avec le président de la République. On ne peut pas en appeler qu'à la responsabilité individuelle. Il faut qu'on en appelle à l'action collective, à la démarche collective pour essayer de trouver un certain nombre de solutions aux uns et aux autres. Et donc, on ne peut pas dire aux demandeurs d'emploi traverse la route, on ne peut pas dire aux personnes qui reçoivent les minima sociaux, on dépense un pognon de dingue et ça ne sert à rien, etc. Donc, voilà. Et là, peut-être, il n'est pas trop tard pour changer et pour avoir beaucoup plus d'empathie.
Mais donc, c'est son attitude, selon vous aussi, qui a peut-être nourri encore peu plus cette crise qui existait en dehors et avant lui.
C'est pas moi qui l'invente, c'est très présent sur les expressions des uns et des autres, y compris sur des personnes qui manifestent aujourd'hui. Donc, c'est une évidence. Mais vous savez, moi, ce qui me frappe dans la période, je vais vous dire franchement, en tant que responsable d'une organisation qui essaye de trouver la voie de sortie d'une situation de crise qui nous met en danger démocratiquement, socialement et même écologiquement. Ce qui me frappe, c'est l'irresponsabilité d'un certain nombre d'acteurs. Je vais vous dire...
Politique.
Mais on est dans un moment où il faudrait que lorsqu'on est responsable d'une organisation syndicale, d'une organisation patronale, lorsqu'on est responsable politique, on se dise, attendez, bien sûr, on n'est pas d'accord sur tout, il va falloir qu'on s'affronte sur un certain nombre de sujets.
Mais de qui parlez-vous là, très précisément?
Je parle d'un certain nombre de politiques. De politiques qui mettent l'huile sur le feu et qui
Jean-Luc
derrière...
Mélenchon, Marine Le Pen,
oui,
mais... Laurent Wauquiez, qui parmi ceux-là?
Je parle, oui, de deux, c'est clair, de M. Dupont-Aignan que j'ai entendu, qui était délirant hier, Mais je parle aussi de ceux qui disent on soutient, puis la violence, on voit moins, etc. Je parle d'un certain nombre de personnes, je le dis, du showbiz, qui disent oui, c'est vrai, il y en a marre d'être taxés, alors qu'ils ont aujourd'hui des revenus conséquents.
Et dans le monde syndical.
Il faut un discours de vérité. Oui, dans le monde syndical.
La CGT a appelé à manifester hier.
Oui, mais c'est son droit. C'est son droit, mais dans le monde syndical, il faut aussi se dire que si on veut traiter les questions de pouvoir d'achat, les questions de transition écologique, eh bien, il faut une cohérence.
Il faut garder sa cohérence. Il y a de la part de la CGT dans l'affaire. Non,
mais bah, si c'était le cas, ça marcherait. Là, pour le coup, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas le sujet. Vous savez, les gilets jaunes, pour reprendre cette expression, les gilets jaunes, la CGT, elle n'a ni la volonté de les récupérer, ni la volonté de les mépriser. Elle a la volonté de les écouter. Et si parmi eux, il y en a certains qui considèrent qu'il faut passer d'une expression d'un mécontentement à la construction de solutions, la CFDT leur ouvre ses portes. Mais parce que nous, on veut des solutions. Et donc, il n'y a pas du tout de mépris de ma part, mais il n'y a pas de volonté de récupération. Mais là, il faut aujourd'hui des corps intermédiaires dans notre société si on veut apaiser la démocratie et construire une société beaucoup plus juste qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Des solutions pour engager aussi d'autres réformes qui sont sur la table aujourd'hui. On retrouve dans un instant Laurent Berger, l'invité du Grand Rendez-vous. Il est le secrétaire général de la CFDT.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Vous écoutez le Grand Rendez-vous de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Une question de Nicolas Barré.
Oui, Laurent Berger, est-ce que la crise sociale à laquelle on assiste, et en particulier si le gouvernement lâche du lest en quelque sorte, ne va pas finalement tuer toute ambition réformatrice pour la suite? Est-ce que ça voudra dire qu'il faudra dire adieu aux réformes type retraite, par exemple?
Non, mais tout dépend du contenu des réformes. Si les réformes sont justes, il faut faire ces réformes. Si elles ne sont pas justes ou si elles sont purement budgétaires, oui, je crois qu'il faut comprendre que c'est pas forcément ce qui est attendu. Donc,
est-ce que cette crise va bloquer le pouvoir, finalement?
Non, mais évidemment que personne n'y a intérêt. Personne n'y a intérêt, quelle que soit la sympathie ou non qu'on peut avoir avec la majorité actuelle. Personne n'a intérêt à un pays bloqué. On a des défis sociaux énormes, on a 10%.
C'est le
presque,
risque.
On a encore 9% de chômeurs. On a encore des inégalités qui progressent dans notre pays. Ouais. On a encore des personnes en situation de pauvreté à un nombre insupportable. Donc il faut des réformes, il faut de la transformation sociale. Mais la transformation sociale qui soit juste et qui ne soit pas seulement sous l'angle budgétaire, comme ça a malheureusement trop été le cas ces derniers temps.
Est-ce que vous craignez que ce mouvement des Gilets jaunes fasse tache d'huile, que des lycéens, par exemple, rentrent dans la danse de la contestation, ça vous inquiète ?
La contestation, si c'est juste de la contestation sans vraiment de contenu...
Avec des blocages peut-être
ça n'a pas d'intérêt, je le dis comme je le pense. Ce qui a intérêt, c'est de trouver les solutions. C'est-à-dire que trouver les solutions pour que l'hôpital public aille mieux et qu'on ait des marges de manœuvre dans l'hôpital public. Trouver des solutions pour qu'on ait des réformes éducatives qui permettent à tous les enfants de s'en sortir et qui respectent les enseignants. Trouver des solutions pour qu'on ait une réforme de la justice qui ne se fasse pas en supprimant, par exemple, des greffiers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut redonner du sens. La question qui est posée, c'est celle du sens. Ce n'est pas les réformes ajoutées les unes après les autres. C'est quel modèle de société, de développement on veut construire ici, en France, en Europe. Et c'est ça qui est posé, finalement.
Vous avez évoqué le problème du chômage. Il baisse un petit peu, mais très doucement. Et on est encore loin des fameux 7% que le président s'est donné comme butoir pour la fin de son quinquennat. Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire baisser à ce point le chômage? Et pourquoi cette différence avec les autres pays, notamment européens?
Je crois qu'il y a, d'abord un sujet de formation. C'est-à-dire que sur la formation, on est quand même en difficulté. Et la réforme qui a été faite, qui a bousculé le système de formation existant, n'est pas remplacée par quelque chose d'assez efficient aujourd'hui. Donc on voit bien...
Réforme, elle n'a pas encore... Elle n'a pas encore été complètement mise en place.
Oui, bien sûr, parce que ça demande du temps. Mais c'est quand même assez frappant de constater qu'on a un certain nombre de territoires où il y a des emplois possibles et où on n'a pas les personnes en face parce qu'il n'y a pas les formations. Et c'est ce moment-là où on choisit... C'est à ce moment-là où le service public de la formation, qui est celui de l'AFPA, est en grosse difficulté, on a un plan social. Donc il faut quand même regarder tout ça un peu en système pour se dire qu'on a un problème. Les autres éléments, c'est que la reprise d'emploi, elle se fait trop souvent en précarité. Elle se fait trop souvent en précarité. C'est un des enjeux de la négociation assurance chômage. C'est-à-dire que...
Et là, vous avez trouvé un accord, justement, sur l'assurance chômage, parce que ça n'a pas l'air bien parti entre...
On est en négociation. Vous savez, la négociation, c'est
toujours... Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste un mois.
Il reste jusqu'à fin janvier, à peu près. Donc, vous savez, on veut essayer d'aboutir, mais on veut aboutir à quoi ? À un niveau d'indemnisation qui reste un bon niveau d'indemnisation. Parce que moi, j'entends le procès fait aux chômeurs qui seraient trop indemnisés, etc. La réalité, c'est que l'indemnisation moyenne, elle est à un peu plus de 1 000 euros aujourd'hui pour les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés par l'UNEDIC. Et il y a 90% d'entre eux qui sont à peu près, qui ont moins de 2 000 euros d'indemnisation. Donc, il faut arrêter ce
procès. Il n'y a pas de sujet pour ce procès. On ne baisse pas les indemnisations.
Mais non, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet global de chômeurs qui profiteraient, etc. Il y a un sujet d'accompagnement vers le retour à l'emploi, d'un bon niveau d'indemnisation et de responsabilisation des entreprises sur l'utilisation des contrats courts. Parce que ça mine le retour à l'emploi durable. Donc voilà, ces sujets-là sont sur la table, on négocie, j'espère qu'on aura un accord, sinon c'est l'État qui reprendra le bébé, comme on dit.
Et là, il se passe quoi si l'État reprend...
passera, si la logique, c'est toujours la règle à calcul, il se passera des baisses de droits pour les demandeurs d'emploi. Donc nous, on ne veut pas. Donc c'est ça qui est aujourd'hui sur la table. Il faut que le patronat entende ces propositions-là et qu'on trouve un accord. Si ce n'est pas le cas, on verra fin janvier.
Nicolas Barret. On a pu voir qu'il y avait un certain nombre de retraités parmi les gilets jaunes, assez nombreux. C'est un signal d'alerte, vous pensez, pour la future réforme des retraites ?
C'est surtout un signal d'alarme qui a été posé là aussi par la CFDT depuis longtemps, de retraités qui se sont fait malmener. Je vais prendre un exemple. Évidemment, il y a la CSG. Et qui a touché, y compris les basses retraites, contrairement à ce qu'on a dit. Et puis, il y a eu la non-revalorisation des retraites.
Oui, moins que l'inflation.
Voilà. Moins que l'inflation.
0,3%.
Ouais. Mais c'est un signal désastreux. Ouais. Désastreux auprès des retraités d'aujourd'hui. La CFDT s'est mobilisée, la CFDT retraitée, la Confédération s'est mobilisée sur ce sujet-là pour protester. Et donc, c'est un mauvais signal sur la réforme des retraites, cette non-indexation, pour une raison simple, c'est qu'il faut qu'on ait confiance dans le système de retraite par répartition pour y adhérer. Et là, il y a eu un coin de posée. Alors maintenant, la discussion sur les retraites, elle est en train de s'ouvrir. Ouais. Elle est encore au tout début.
Les Gilets jaunes disent pas de retraite en dessous de 1 200 euros.
Mais la CFDT a dit 100% du SMIC pour la retraite lorsqu'on a travaillé toute sa vie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez que le minimum contributif aujourd'hui, il est à peine... C'est-à-dire, minimum contributif, c'est quand j'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé et je reçois ma retraite. Le minimum contributif, il est à peine 40 euros de plus que le minimum vieillesse, quand on a travaillé toute sa vie. Donc, parmi les propositions de la CFDT dans cette réforme des retraites, c'est 100% du SMIC lorsque la retraite minimale.
Et la retraite par points, telle qu'elle est imaginée aujourd'hui par le monsieur retraite du gouvernement Jean-Paul Delevoye, elle vous inquiète parce qu'il y aura... on ne sait pas comment va être
mais
déterminé ce point.
La retraite par points, c'est une technique. Et ça, c'est très français. On part par la technique au lieu de partir par le sens. Nous, ce qu'on veut, c'est une réforme qui soit lisible. Il y a plein de gens que je côtoie qui vont partir en retraite dans les mois à venir, dans les années à venir, qui sont incapables de dire quel sera leur niveau de retraite. Donc, en termes de confiance dans le système, ce n'est pas génial. Il faut qu'elle soit juste. Aujourd'hui, les inégalités sont flagrantes. Lorsque vous êtes une femme, vous êtes sanctionnée au moment de la retraite. Lorsque vous avez une carrière chaotique, vous êtes sanctionnée. Lorsque vous avez commencé à travailler tôt, même s'il y a des dispositifs qui existent, vous êtes sanctionnée par rapport à d'autres. Donc, il faut une réforme qui soit plus juste. Et puis, il faut une réforme qui permette de pérenniser le système de retraite par répartition et qui, permette, lorsqu'on cotise, dès le premier jour qu'on cotise pour la retraite, eh bien, on a un droit qui commence à être acquis. Donc, il faut rentrer dans cette concertation. Moi, on a deux opposants dans cette concertation. On a ceux qui nous disent, mais non, arrêtez avec tout ça, mettez la retraite à 63, 64 ans et tout ça est réglé. Nous, on ne veut pas toucher à l'âge légal. Et puis, il y a ceux qui disent...
Le gouvernement non plus, a priori, pour l'instant.
On verra. Le système légal... Et puis, il y a tous ceux qui disent, mais le système actuel, il est très bien. Pourquoi vous voulez bouger ? Ben parce qu'aujourd'hui, il y a plein de perdants. Il y a plein de perdants, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés du privé. Il y a plein de perdants. Et donc, nous, on veut un système beaucoup plus juste pour tout le monde et qui soit du mieux. Et ce n'est pas une réforme financière. Ce n'est pas une réforme paramétrique, c'est une réforme de justice sociale. Et peut-être que ça sera un détournant du quinquennat, que ce gouvernement soit capable de faire du mieux et du plus à travers cette réforme et pas du moins avec une logique financière.
On va terminer cette émission, Laurent Berger, comme on l'a commencé. Où va-t-on ? Il y a des élections européennes qui se profilent, c'est en mai prochain. Est-ce que vous craignez que ce qu'on vit en France avec ce mouvement de contestation social donne des résultats et qu'on peut voir dans d'autres pays sous d'autres formes, donne des résultats inquiétants ?
Oui, bien sûr. D'abord, ce serait inquiétant pour l'avenir de nos démocraties. Puis ce serait inquiétant pour l'Europe. L'Europe, c'est notre destin commun. Alors forcément, pas n'importe quelle Europe. Une Europe qui se préoccupe des inégalités sociales, des inégalités territoriales. Une Europe qui se préoccupe de l'investissement dans la transition écologique, dans une économie durable. Une Europe qui soit capable de gérer son rapport au monde.
Mais ce n'est pas l'image aujourd'hui qu'elle a, cette Europe.
Mais c'est ça qu'il faut construire. Il ne va pas falloir... Moi, je ne crois pas à la capacité de faire une campagne européenne des uns et des autres sur la peur des autres. Je ne crois pas que ce soit un mode d'opposition. Il faut construire des propositions. La CFDT est très investie au niveau européen. Je le suis personnellement aussi. Et c'est à partir des propositions sur le salaire minimum en Europe, l'assurance chômage, des fonds pour aider les territoires les plus en difficulté, des logiques de politique d'aide aux plus jeunes et à la formation, etc. Donc l'Europe... ça va être le gros sujet, évidemment, des mois à venir. Mais là aussi, les caricatures vont fleurir de tous les côtés. Nous, on va essayer de mettre des propositions concrètes, encore une fois.
Merci, Laurent Berger, d'être venu faire quelques-unes de ces propositions sur le plateau du Grand Rendez-vous, cette émission en partenariat avec CNews et Les Échos. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Très bonne semaine à tous.
Merci, Hélène Jouan. On vous retrouve en effet un dimanche prochain à 10h pour un nouveau Grand Rendez-vous en partenariat avec CNews et Les Échos. En attendant, votre dimanche continue sur Europe. Dans moins de 5 minutes, Frédéric Taddeï nous emmène en balade. Bonjour Frédéric, on part avec qui aujourd'hui ?
Bonjour Justine, c'est en compagnie d'un grand chef français, l'un des plus célèbres, Guy Savoy, que nous partons en balade aujourd'hui. Il nous a donné rendez-vous dans le 17e arrondissement, chez l'un de nos plus grands chocolatiers, c'est Patrick Roger.
Ah oui, je sens qu'on va vite avoir faim. A tout de suite alors.